Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Paul.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
J'aime beaucoup votre façon d'être, votre humour. Et puis d'ailleurs, je vous ai écouté pendant des années sur l'autre poste.
Ah oui.
Et puis, merci. Je suis bien content
de m'avoir suivi sur RTL.
Oui. Ben, voilà, c'est parce que dire que ma vie, enfin, ça a été une souffrance. Enfin, ça l'est toujours depuis quelques temps.
Bon,
je ne mange plus. Non, mais ça vient de la naissance. Bon, ma mère a eu un AVC qui l'a complètement démoli, quoi, à ma naissance. Hein.
Vous aviez au moment de l'accouchement ou...
Oui, à l'accouchement. Bon, même. Oh là là. Par contre, il paraît qu'elle s'est levée pour aller voir mon frère, là, et puis pof. Et après, bon, elle a perdu toutes ses facultés, elle ne pouvait plus marcher, parler. Enfin,
c'est terrible. C'est terrible pour elle et puis pour le petit nourrisson que vous étiez.
Ah ben, pour elle, toute sa vie, ça a été une souffrance.
Parce qu'elle n'a pas récupéré, elle en avait gardé des séquelles importantes.
Oh là là, oui.
Alors, elle était jeune pourtant, j'imagine, quand
oui,
elle vous a mise au monde.
30 ans, 35 ans.
Oh là là.
Mais elle a souffert énormément après, parce que bon, elle ne pouvait plus s'exprimer, elle ne pouvait plus écrire, compter. Enfin, elle était comme une enfant de 10 ans, quoi.
Mais peut-être qu'à ce moment... Ah bon, mais à ce point-là... Mais c'est-à-dire que peut-être aussi, à l'époque, on ne prenait pas en charge les AVC comme aujourd'hui. Alors après, il y a des degrés, il y a des de gravité différents, hein, selon...
Non, elle a eu beaucoup d'électrochocs, je sais que... Bon. Mais elle a souffert de sa vie, et puis bon, ben, j'en étais quand même la cause. Elle me le disait, elle le disait aux gens... Bon.
Oh, c'est dur pour vous, parce que c'était pas votre faute. Enfin, c'est terrible d'avoir... Oui, vous avez porté ça, vous.
Oui, comme explication, c'était... Paul.
Oui.
Oh. Bon, alors, si bien que toute la vie, bon, je traîne une peur, une crainte, enfin, une trouille, une angoisse, et puis je ne pouvais pas vivre normalement. Bon, je avais été chez une nourrice qui était la meilleure amie de maman, qui l'adorait d'ailleurs.
Oui, oui.
C'était peut-être pas mieux, parce que bon, quand elle a vu ma mère qui était très bien avant, formidable, et puis bon, après, et puis j'en étais quand même la cause, quoi.
Oui, mais heureusement, mon pauvre, ça a pesé sur vous très très lourdement. Mais quand vous dites que vous étiez en nourrice, ça veut dire que, oui, votre maman, malheureusement, n'était plus en capacité de s'occuper de vous.
Ah,
donc,
ben,
tout petit. Et elle était mariée, elle.
Oui.
Oui.
Mais il y avait une dame de compagnie qui. Parce qu'il y avait les moyens. Bon, mon père hérité, tout ça, bon. Il y avait une usine qui tournait, mais mon père aussi, ça l'a détruit, parce qu'il est même amer. Mais par contre, comme on a dit, et mon père aussi, ils sont mariés, bon, là, amoureux, mais il a fallu 6 mois pour que l'acte conjugal se fasse, parce qu'elle avait peur de l'homme. Elle voulait même se foutre par la fenêtre comme mon père. Ben, et alors,
et comment vous avez su ça?
Ah, ils m'ont dit, et puis je l'ai su aussi, mes cousines. Bon, un curé est venu parce qu'elle était très croyante, et puis il a dit de faire son devoir conjugal, quoi.
Ah, c'est le curé qui a dit ça?
Ah oui, oui, oui.
Vraiment, on les mettait à toutes les sauces.
Ah oui, mais elle était très croyante.
Oui, oui, enfin, certainement, mais c'était bon, c'est ça. Elle aurait pu y trouver un réconfort, donc c'est grâce au curé que... Et alors après, l'histoire est tragique, parce que quand on fait, donc elle fait son devoir conjugal, comme on lui demandait, et elle est tombée enceinte de vous assez rapidement.
Elle voulait pas de moi, on est tombé dans l'escalier, elle a fait des chutes, enfin, elle a essayé de me faire passer, enfin, naturellement, sans avortement, sans rien.
Non, mais elle était traumatisée, votre maman, déjà, bon, enfin, parce que déjà, entre cette peur, enfin, panique de l'acte sexuel, on peut même se demander d'ailleurs pourquoi elle s'est mariée.
Par amour quand même.
Par amour, elle était amoureuse de votre père.
Oui, mon père aussi, mais lui aussi n'était pas très au courant de la chose. Enfin, c'était un fils à papa, ma mère, bon, aussi.
Enfin, oui, mais on peut se demander, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a eu des générations qui ont été traumatisées par ce qu'on appelait la nuit de noces, où malheureusement, comme vous dites, parfois inexpérimentées, les femmes, on ne leur expliquait rien, et avec beaucoup de maladresse, ça pouvait très mal se passer. C'était une première fois qui parfois était catastrophique pour les deux. Mais de là à attendre 6 mois, et qu'au fond, presque à vouloir jeter... par la fenêtre quand votre père tentait de l'approcher alors qu'elle en était amoureuse, après, alors qu'elle est enceinte, faire tout pour finalement provoquer une fausse couche, ça interroge, de dire qu'est-ce qu'elle avait vécu et pourquoi c'était aussi traumatisant pour elle.
Oui, c'était vierge, sans dire. Mais
oui, mais enfin, on peut être vierge et pas aussi traumatisé.
Ah oui. Bon, mon père, n'était pas très dégourdi non plus. Et puis.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
si, d'après ma mère.
Mais qui vous racontait? Vous l'avez su quand?
Ma mère en a parlé.
À vous?
Et puis, l'entourage aussi, parce que.
Mais pas quand vous étiez enfant, j'espère, parce que déjà vous portiez tellement de choses. Non, plus tard.
Mais j'ai été élevé par une nourrice qui était sa meilleure amie, et qu'il avait connue quand elle était très bien, quoi. Et puis, ma foi, ça c'était peut-être pas très bon, parce que j'étais pas fautif, mais bon, pour ma nourrice, ça, de voir ma mère qu'elle avait connue si bien, quoi, l'avoir réduit à son état.
Mais elle vous gardait, donc c'est votre nourrice était une très bonne amie de votre mère, ça veut dire qu'elle vous gardait, en fait, même le soir, c'est elle qui vous a élevé, au fond,
oui, j'étais chez elle.
Comment elle était avec vous? Est-ce qu'elle était.
Je me rappelle juste que, j'avais fait pipi dans son lit, je sais pas quoi, des petits cochons. Mon père lui a payé un petit café épicerie. Moi, je recevais les marchands de chevaux, tout ça. Elle était occupée, Et c'était une brave femme.
Mais j'ai pas compris, vous aviez fait pipi au lit, qu'est-ce qui s'est passé?
Mettre les petits cochons, mais je m'en suis rappelé,
Oui, comme quoi vous vous rappelez de ça, comme si vous étiez honteux de ça.
Mais elle était pas méchante, mais elle était très occupée à servir à boire aux gars qui n'avaient que leurs chevaux à l'époque.
Ah oui, donc elle travaillait beaucoup, donc finalement, oui, elle est... Elle n'a pas été très, très maternante vis-à-vis de vous, quoi.
Non, même plus tard, quand on me voyait, quand elle m'a tendu là.
C'est dur, parce que c'est très dur, évidemment, pour votre maman. C'est terrible. Où quelque chose s'ouvre, qu'elle met au monde son bébé, et c'est cet AVC qui la laisse finalement très handicapée. Aussi, quand même, en vous écoutant, j'ai de la peine aussi pour vous, pour le petit bébé que vous étiez, qui, lui, n'avait rien demandé, qui avait besoin d'attention, de douceur, de protection. Et finalement, au fond, on entend votre culpabilité encore aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge vous avez, Paul, mais vous me parlez de...
J'ai 80 ans, quand même. Je ne mange plus depuis quelques temps.
Pourquoi vous ne mangez plus depuis quelques temps?
Heureusement, j'ai mon chat qui me tient en vie, quoi. Mon chat, il est un peu comme moi, il est peureux, craintif. Et avec mon chat, je suis un couple, quoi. Parce que, avec une femme, ça n'allait pas. Dès qu'une femme me parlait, une jeune fille, quoi, je bredouillais, je perdais tous mes moyens, je ne savais plus où j'habitais, j'étais perdu aussi,
Oui.
Et puis, ma mère, elle souffrait tellement. Elle pleurait presque tous les jours. Elle faisait beaucoup de prières. Elle était très...
Croyante.
Très catholique. Mmh. Et puis, mon père, avec son frère, il était associé pour une usine. Oui. Ils ont quand même fait du marché noir. Ils se sont enrichis. Ils ont rendu un peu ce qu'ils avaient gagné. Et malgré tout, j'étais quand même... fils de collabo, à l'école.
Qui, votre père et votre oncle?
Ah oui, c'était mon oncle.
Il pouvait faire du marché noir sans être collabo.
là-bas, il travaillait pour les Allemands, c'était une usine.
Et alors, à l'école, donc, on vous traitait de fils de collabo?
J'ai dû considérer comme ça la famille.
Oh là là, mon pauvre, qu'est-ce que vous avez porté? Parce que déjà, les conditions de votre naissance, où déjà vous portiez tout le poids, enfin, où finalement on disait, c'est Paul, quoi, quand faut envoyer l'état de votre maman, on disait, c'est Paul, donc si vous étiez responsable, vous, petit bonhomme. Et après, à l'école, en plus, vous étiez le fils du collabo. Comment voulez-vous, ça aide pas à... Vous dites, vous avez gardé une profonde timidité, c'est une peur, ça aide pas, ça. Mais jamais vous avez réussi à vous sortir un peu de ça, parce que ça vous me dites aujourd'hui, vous êtes avec votre chat, vous formez un couple, il est un peu timide lui aussi, mais ça veut dire que vous avez, enfin, cette timidité, notamment vis-à-vis des femmes, elle vous a jamais quitté, Paul ?
Non, j'étais amoureux, très amoureux, mais c'était platonique, de loin, quoi.
Oui.
Mais il fallait pas, je pouvais pas parler, enfin, je parlais, j'étais... Et puis, j'ai jamais pu satisfaire une femme, de toute façon.
Mais pourquoi dites-vous ça? Parce qu'au fond, vous aviez trop peur, c'est ça?
Trop peur, et puis complètement inhibé.
C'est ça.
Et puis, émotif, comme ça, quoi.
Vous perdiez vos moyens, un peu, face à une femme.
Est-ce que j'ai pas... Et puis, je tremblais. Quand j'allais à l'école, j'avais une trouille terrible, comme un terroir. Sûrement envoyé au tableau, alors là, c'était le supplice, quoi. Bon, j'en tremblais aussi, puis bon. Puis je pouvais pas me concentrer sur rien du tout. Enfin, j'ai eu aucun diplôme. Je loupais tout, quoi. Je n'arrivais pas.
Mais oui, parce que vous étiez complètement inhibé et vous aviez la tête pleine de soucis. Vous pouviez pas apprendre. C'est pas que vous n'étiez pas intelligent, mais c'est que vous aviez trop de soucis en tête, trop de peur, trop de...
J'ai retrouvé ma mère, il fallait lui faire faire des dictées, mais enfin, la faire un peu écrire, compter, parce qu'elle était devenue comme une gamine de 10-12 ans. Quoi.
C'est ça, c'est ce que vous m'avez dit, oui.
Mais...
Et finalement, ça veut dire que... Mais alors là, je reviens quand même à vous aujourd'hui, Paul, parce que vous me dites que depuis quelques jours, vous ne mangez plus parce que vous avez perdu l'appétit.
Oh oui, oh bof. Il n'y a que l'amour du chat qui...
C'est important déjà, l'amour de ce chat, parce que lui, il continue à se nourrir.
Ah oui, je le nourris, je m'en occupe bien.
Moi, j'en doute pas. Comment il s'appelle?
Comme un enfant. Lilou.
Lilou.
Il l'a adopté à la SPA, mais avant...
Lilou, c'est ça?
Lilou.
C'est une petite chatte, donc?
Oui, une petite chatte.
Mais elle a quel âge?
Elle avait souffert. 2 ans et demi.
Ah, elle est toute jeune.
Je l'ai adoptée, elle avait été trouvée dans la rue.
C'est bien.
Abandonnée, elle avait peut-être 3 petits chatons. Enfin... Elle est très peureuse, mais avec moi, bon, elle n'a pas peur. Mais si quelqu'un vient, alors là,
elle se sauve. Elle est comme vous, vous dites.
Ah oui, oui, oui.
C'est ça que vous.
Ah oui,
vous ressemblez, vous êtes trouvés tous les deux.
Ah oui, oui.
Parce qu'elle aussi, elle a eu des débuts difficiles.
Oh là là, oui.
Mais elle a la chance maintenant de vous avoir et vous veiller sur elle.
Ah ben, c'est mon seul.
Rayon de soleil.
Ah oui, et puis mon but de vie, quoi. Parce que pour le reste, au travail, je pouvais pas. Bon, j'étais à la cantine, par exemple, je tremblais en mangeant. Alors les deux me regardaient, mais il me fallait pas la société, quoi. Dès que j'étais en société.
Oui, vous perdiez tous vos moyens, en fait.
Et puis
c'est ça, c'est vraiment, oui, c'était une timidité qui tournait presque à la phobie, quoi, la peur.
Ah, ouais. Alors, et puis j'avais toujours peur de trembler. Si on me donne un verre à boire, mon problème, c'était ça, il ne faut pas que je tremble, quoi.
C'est terrible de vivre comme ça, d'avoir vécu dans cette peur en permanence
des autres. Au travail, c'était pareil, puis...
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous travailliez dans quoi?
Comme j'avais aucun diplôme.
Vous avez fait plusieurs métiers?
Des manœuvres, quoi.
Bon, oui.
Dans différentes maisons, je faisais ce que je pouvais, mais j'étais toujours dans la trouille, quoi.
Peur, au fond, de la peur des autres, quoi.
Des autres,
oui. Oui, puis c'est un peu rude, parfois du coup, parfois c'est un peu comme à l'école, quand on voit quelqu'un qui est un peu craintif, du coup certains malheureusement peuvent en jouer.
C'est vrai, oui.
Vous n'êtes pas fait quand même de parfois un copain, quelqu'un qui
Oh ben, j'étais le bouc émissaire de mon chef, là, qui m'avait pris en grippe en plus. Oui. Oh ben, il me harcelait. Il laissait les autres tranquilles, mais moi, il m'avait pris en grippe. Quoi,
mais
en
voilà, c'est ça. Il avait senti votre fragilité, et puis ça avait réveillé son côté sadique, quoi.
Oui, mais il a été viré.
Ah ben, tant mieux.
Il a été trop loin, et puis il y a eu des témoins.
Ah bon, il a été trop loin avec vous?
Oh oui, enfin, il y a eu des syndicaux qui...
Oui, qui quand même ont pris votre défense. Et...
Oui, et puis qui étaient témoins de certaines...
Bon... Humiliation, en fait.
Oh là, oui.
Vous humiliez.
Ben oui, c'est toujours la peur qui a régné, qui règne encore. Hein.
Aujourd'hui encore, vous vivez dans cette peur?
Ah ben, je vis en reclus, en solitaire chez moi.
En reclus? Mais vous avez une maison? Vous êtes dans un appartement?
Ah, bon, je suis bien installé parce que j'ai quand même fait des économies. Bon.
Mais c'est bien.
Un appartement là, à Nice.
À vous? Vous êtes à Nice?
Oui, vu sur la mer en plus.
Ah, c'est formidable ça.
Une pièce avec une terrasse.
Ah ben, je suis contente pour vous de savoir que vous vous êtes fait quand même un endroit douillet, dans un très bel endroit avec la mer.
Ouais. Ah oui, parce que j'ai toujours été très sérieux.
Oui.
Et puis, pas dépensier, quoi.
Oui, oui.
Mais...
Votre petite Lilou, elle doit y aller sur la terrasse?
Non, elle n'ose pas y aller. Ah ben, bon
sang. Elle est très craintive.
Hein, oh là là, ben oui. Bon, elle vient sur moi souvent pour avoir des caresses. Bon. Mmh. Je la nourris bien. Enfin, c'est un peu ma vie, quoi.
Ben oui, je comprends.
Mais... Il ne faut pas que quelqu'un rentre. Puis dès qu'elle a entendu mon sur le palier, la trouille. Enfin.
Donc il y a parfois, quand vous dites quand quelqu'un rentre, donc c'est qu'il y a des gens qui viennent vous rendre visite quand même.
Non, elle a entendu bruit sur le palier. Non. Il viendrait quelqu'un si un technicien, elle se cache sous le lit, puis bon, elle se cache et puis elle ne se fait pas voir. Hein.
Oui, il n'y a qu'avec vous qu'elle se sent bien et en confiance.
Ben oui, parce qu'on se connaît. Et puis, elle est rassurée avec moi.
On voit votre témoignage me touche infiniment parce que, je le dis souvent, mais on voit à quel point les animaux peuvent nous consoler de tellement de blessures. Enfin, il y a cette... Il y a ce lien, quoi, qui est indescriptible, où finalement, quand les humains nous ont blessés, il y a ce rapport aux animaux qui console énormément.
Ah, c'est comme mon enfant.
Oui, je comprends.
C'est comme j'avais...
Mais quand je vous entends, vous voyez, Paul, je me dis, il y a tellement de délicatesse en vous, on sent de la douceur, de la tendresse... Oui. On voit que vous donnez d'ailleurs à cette petite chatte que vous avez adoptée. Et je me dis, même aujourd'hui, vous vivez, vous êtes à Nice, qui est quand même une ville très agréable, où il y a beaucoup de personnes, y compris de votre génération, qui sont un peu seules aussi.
Oui, c'est vrai.
Et désireuses, au fond, qui aimeraient bien avoir, pouvoir partager, avoir un ami, pouvoir se promener, prendre un petit café, un petit thé ensemble, et sans s'envahir, mais peut-être de temps en temps, ou à qui parler au téléphone, ou...
J'ai une personne qui est aveugle, qui a 83 ans, qui habite Béziers, je lui téléphone, quoi. En plus ça, comme elle a mes idées de gauche, là. Mais une autre, alors là, elle était plutôt sectaire, la coupe à l'islam. Elle m'a demandé si j'avais un crucifix chez moi, un prix Dieu. Enfin, bon,
c'est pas vrai.
Si, elle allait trop loin.
Oui, elle allait un peu trop loin, oui, en effet. Oui.
Ah bah oui.
Oui, alors vous, en plus, qui avez baigné un peu dans tout ça, je comprends pas.
Eh bien, trop.
Oui, trop, trop. Mais c'est une amie que vous avez à Béziers, c'est ça?
C'est une dame qui est aveugle, quoi. Que j'ai connue.
Et comment vous l'avez connue, cette dame?
Parce que, en rapport, la ville de Nice, j'avais demandé quelqu'un qui vienne, là. Et puis, ils m'ont trouvé personne. Enfin, bon. Et pourtant, j'étais au petit frère des pauvres. J'étais bénévole pendant des années, là.
Vous étiez bénévole, là-bas?
Oui, j'allais voir les personnes âgées.
Ah oui?
Ben, j'en ai, à la fin, vu à l'hôpital, j'en ai enterré deux, quoi. Et les enfants ne venaient jamais les voir. Hein. Ils étaient abandonnés. Mmh. Oh, il y a beaucoup de
personnes. Ah, c'est pas une garantie contre la solitude, vous savez? Mais en fait, c'est pas, c'est votre initiative être bénévole auprès des petits frères des pauvres, c'est pas anodin, parce que justement avec les personnes âgées, au fond, elles vous touchaient aussi dans la solitude. Et là, vous n'aviez pas peur.
Ben, elle était près de la mort aussi, enfin pas loin. Et puis elle était complètement abandonnée.
C'est ça, c'est elle vous touchait, vous. Mm.
Et ma mère d'ailleurs, bon, je me suis senti responsable de sa mort quand même. Parce que bon, on est à table avec mon père. Mon père c'était un patriarche, un chef, qui s'est mis à boire énormément. Mais il était pas méchant, enfin, il était quand même, pas méchant, pas violent. Très vieille France, quoi.
Oui, plus malheureux que méchant, quoi, oui.
Oh, ben, il buvait énormément.
Ouais, ouais.
Et puis, il partait en voyage. Alors, quand il partait en voyage, ma mère, elle pleurait. Elle n'existait pas quand il n'était pas là. Elle était dans son attente, l'attente de son mari. Mm. Elle l'écoutait religieusement. Elle l'admirait quand même.
Oui, et ils sont toujours restés ensemble, votre père.
Oui. Ah,
oui, donc il y avait beaucoup d'amour. Et c'était un homme bien, enfin un homme d'honneur, finalement.
Oui, vieille Florence. Oui, bah, élevé dans une famille très catho, puis très... Oui. Oui.
Mais c'est terrible, parce qu'au fond, il y a... Enfin, je vous dis, c'est effectivement cette histoire. Il y a quelque chose de tragique dans votre maman si jeune qui fait cet AVC avec de si lourdes séquelles. Vous, petit bébé, qui venez. Il y a beaucoup d'abandon, finalement. Il y a.
Oui,
et votre parcours, vous me parlez de cette petite Lilou que vous avez été chercher à la SPA. Il y a vous qui avez été bénévole aux petits frères des pauvres. Vous avez arrêté, d'ailleurs, après, parce que finalement, est-ce que vous les avez recontactés? Parce que vous avez donné de votre temps aujourd'hui.
Je les ai contactés, mais ils m'ont trouvé personne, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a certaines femmes qui préfèrent voir une femme, quoi.
Ah, ils vous ont trouvé personne parce que vous les avez contactés, vous voulez dire, pour avoir justement un peu des visites aujourd'hui.
Oui.
Mais comment ça, ils vous ont trouvé personne?
Ah ben, ils sont venus pourtant chez moi, ils ont vu que c'était bien, mais ils m'ont téléphoné en disant que non, bon. Mais il
faudrait peut-être redémarrer, enfin recommencer, parce qu'on sent que vous avez plaisir à parler.
J'ai besoin.
Ben vous avez besoin de parler, bien sûr. Et vous me dites, c'est la première fois que vous m'appelez?
Ah oui, bien sûr.
Oui, parce que je...
Vous avez beaucoup entendu.
Mais oui, c'est ce que vous me dites, que vous écoutez depuis des années.
J'aime bien vous écouter, vous êtes agréable et puis...
Mais moi, votre témoignage me touche énormément, Paul, et je me dis, je me dis que vous avez, enfin, il y a tellement, c'est ce que dit Sergio d'ailleurs, qui envoie. Je vais vous lire des messages qui parviennent. Il dit qu'il est touchant, ce monsieur Paul, une grande douceur dans la voix. Sergio dit longue vie à vous et à votre petite Lilou. Il y a tellement de douceur en vous, de gentillesse, qu'au fond, c'est dommage d'être si reclus.
Oui.
Et en entendant votre parcours, on se dit aujourd'hui, voyez, aujourd'hui, j'espère, mais que ce petit garçon qui avait tellement peur des autres, et on comprend au vu de votre histoire, ce petit garçon qui très tôt s'est senti coupable. De l'état de sa maman, alors que vous n'avez fait que venir au monde, c'était pas votre faute, et vous aussi vous aviez besoin de soins et d'attention. Après, ce petit garçon qui à l'école, ben, qu'on traitait de fils de collabo, ça, franchement, comment ne pas être écrasé et avoir peur des autres, de leur jugement? Après, ça a continué à l'usine, où finalement vous êtes tombé sur ce chef qui est un sadique, et qui finalement en a profité pour assouvir, oui, son sadisme sur vous. Et on se dit aujourd'hui, moi j'aimerais pour vous, vous avez 80 ans, vous ayez une vieillesse plus douce aujourd'hui, et que cette douceur, vous puissiez la partager avec d'autres, et que vous puissiez aussi vous en avoir en retour. Parce que j'entends que cette petite Lilou, elle vous apporte beaucoup, mais on a aussi besoin de chaleur humaine.
Mais j'étais très gentil avec certains qui m'ont escroqué. Puis bon, j'ai connu des filles qui ont profité de moi, quoi.
Moi, je serais à Nice, franchement. Je viendrai vous voir. Parce que, non, mais je vous trouve extrêmement touchant.
Je suis pas méchant.
Oh non, j'entends qu'il y a pas, il y a beaucoup de douceur. Et je me dis certainement parmi les auditeurs, les auditrices qui écoutent, il y en a peut-être d'ailleurs qui habitent Nice et qui peut-être, si certains appelaient pour échanger avec vous au téléphone, est-ce que vous seriez prêt à le faire?
Ah oui, parce que j'ai pas un coup de téléphone de la journée, hein.
Oui, c'est long.
Heureusement que j'ai mes lectures.
Oui.
Et c'est la lecture qui m'a sauvé, quoi.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Oh, j'ai lu tous les classiques principaux, ouais. Et puis tout ce qui est biographie d'artistes, de génies, enfin bon, d'autres.
Ouais.
Mais je m'intéresse.
Vous avez tout un univers et beaucoup autour de la littérature qui sont.
C'est votre
compagnie. Oui, je comprends que ça vous sauve. Ouais.
Mais je me suis senti responsable aussi de ma mère, parce que bon, j'étais avec mon père à table. J'ai vu que ma mère est tombée, je l'ai laissée tomber par terre. Quoi. Bon, mon père et moi, on a été la coucher. Mon époux, bon, c'est un jeune docteur qui est venu, mais comme ma mère, en s'exprimant, ben, forcément, confusion mentale, elle pouvait pas bien parler. Bon, il a fait hospitaliser, oui.
Oui.
Mais hospitalisé, bon, ils n'ont rien trouvé.
Oui.
Mon époux, enfin, mon frère aîné, il a lancé une action. Une alerte, enfin bon, ils ont été l'inspecteur qui a été voir à l'hôpital de Fougères, là. Et puis, bon, ben, le directeur en colère, comme tout, il l'a fait mettre dans un petit hôpital, une petite ville. Et puis, après, elle a attrapé un microbe, muco, je sais pas quoi, là.
Une maladie nosocomiale.
Oui.
Oui.
Et puis, alors, elle a une agonie, mais terrible. Il paraît qu'elle criait. Les infirmières, on dit, mais.
La pauvre, jusqu'au bout, oui, elle a une vie, même sa fin de vie a été pénible.
Ah,
et vous aviez quel âge, vous, quand elle est décédée, votre maman?
Ah ben, j'étais sur place. Et alors, elle me disait, ben, comme elle était un peu sous morphine, Paul, viens t'allonger auprès de moi. D'un regard, elle me faisait comprendre que, ma foi, bon, ben, je devais l'accompagner, quoi. Et savait que.
Oui, la morphine la faisait un petit peu divaguer.
Pas divaguer, mais bon. Elle me dit, oh, t'es pas malheureux. Enfin bon, c'est le seul mot qu'elle me disait. Et puis jamais m'emmener voir un docteur. Elle s'occupait jamais de.
C'est ça. Mais oui, parce qu'elle est. Mais et en parlant de docteur, justement, est-ce que vous en avez un médecin traitant?
Oui, et puis pendant 10 ans, j'ai quand même suivi de psychothérapie. Hein,
ah oui?
À Paris. Et puis, j'ai fait des gestalt, j'ai fait du yoga, j'ai fait de.
Oui, vous avez cherché à essayer d'aller mieux, d'avoir moins peur, de prendre un peu confiance en vous.
Oui, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Sauf que je suis tombé amoureux d'une psychologue.
Ah, ben oui.
C'était bon. Bon,
mais ça arrive, ça, c'est très fréquent, évidemment.
Très fréquent.
Vous aviez quelqu'un où vous vous sentiez en sécurité, quelqu'un qui vous écoutait. Elle était jolie en plus, donc.
Ouais, ouais.
Mais aujourd'hui, oui, pardon.
Quand j'ai quitté son collègue, il m'a dit, mais t'es malade, parce que lui, il perdait un client aussi, hein, j'étais avec lui, mais quand je l'ai vu, non. Comme
son collègue était moins beau. Vous étiez moins sensible au charme du.
Ah oui, puis j'aime les femmes.
Oui.
Ça, alors, regardez, puis.
Mais Paul, là, il faut. Si vraiment depuis quelques jours vous sentez, alors effectivement entre le couvre-feu, toute cette période que l'on vit ou cette époque de l'année, vous perdez l'appétit, il faut en parler à votre médecin. Là, il faut pas rester tout seul comme ça.
Ouais, mais ça me donne de l'Lexomil, bon, ça me calme.
Non, mais le Lexomil, alors ça calme un peu l'angoisse, mais là c'est peut-être un peu, ça serait plus un antidépresseur qu'il vous faudrait, quelque chose qui stimule. Mais peut-être un peu, parce que, voyez là, il faut pas que vous risquez, il faut pas vous affaiblir. Si vous restez comme ça sans manger, vous allez perdre des forces et ça va pas vous aider moralement.
Oui,
voyez,
sais.
Si vous vous affaiblissez physiquement, ça va encore amplifier votre baisse de morale. Donc il faudrait le voir là et dire là depuis quelques jours, j'arrive pas à manier, j'ai plus faim, j'ai pas d'appétit, j'ai pas d'envie. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans ce cas et vous êtes trop seul en plus, Paul.
Mais il est bien gentil ce docteur là. J'avais été le voir parce que je pouvais plus marcher. Bon, lui il m'a dit vous prenez un petit tabouret, vous l'asseyez tous les 10 minutes. Mais heureusement que j'étais consulté un rhumatologue et un chirurgien. Le chirurgien, il m'a opéré des hanches. Et bon,
ah oui, en effet, effectivement. S'il avait le tabouret comme solution.
Ah oui, oui. Et en plus, quand.
Bon, il faut changer. Paul, il faut changer. Hein. Parce que franchement, heureusement que vous êtes allé voir un. Vous voyez, vous n'arriviez plus à marcher parce que vous aviez un problème de hanche. Enfin, oui. Lui, s'il vous sort. Oui, il faut peut-être que vous trouviez un bon médecin. Allez,
et en plus, il va dire il est bien votre petit tabouret, achetez-moi un pour moi. Il a peut-être des problèmes aussi, mais bon.
Écoutez, s'il a plus de problèmes que vous, il faut vraiment changer de médecin. On va aller voir du côté, parce que je suis sûre qu'il y a des messages qui arrivent pour vous. Je vois Paul là qui est concentré. Vous connaissez l'émission, vous savez que des personnes vous écoutent et peuvent réagir. Donc je vous propose qu'on les écoute ensemble, Paul.
Entendu, oui.
On a notre Paul à nous dans le studio qui va...
Mais on se connaît avec Paul, hein.
Oui,
on discute entre Paul, on se comprend, vous savez. Oh oui, bien sûr. Oh ben merci. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir vos compliments. Il y a plein de choses pour vous. Il y a Christelle qui dit, on peut se demander si votre mère n'était pas vulnérable déjà depuis toujours. Elle ne voulait pas vraiment de cette relation, au fond, puisque tout le long du processus de la grossesse, ça n'allait pas. Vous n'êtes responsable de rien. Vous vous êtes fait un nid douillet, c'est très bien. Et avant même que vous en parliez, elle disait, Christelle, que vous verbalisiez bien et que vous pourriez en parler avec un psy. Oui. Mais vous l'avez déjà fait, comme le valet de cœur qui vous dit pardon pour les personnes qui sont victimes de violences physiques, mais trop souvent des mots terribles peuvent être plus destructeurs parfois que des coups. Oui. Et les deux sont inacceptables autant que condamnables. Les chats ressentent très fort la bienveillance d'un être humain, signe que vous êtes un homme bien, un homme bon. Vous êtes aussi méritant que n'importe qui d'entre nous, soyez-en certains. Je vous fais toutes mes amitiés. Il y a Philippe aussi qui dit vous êtes très touchant, très attachant, vous m'avez bouleversé en pensant aux autres, mais jamais à vous. Et il y a Martine qui dit que vous avez une voix très douce. Alors elle dit, je n'habite pas à Nice, j'en suis loin, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde, il le mérite, je vous embrasse.
Mais quelquefois, en étant trop bon, on est trop con aussi, parce que tu m'as su fait avoir...
Ouais. Mais c'est bon. Bien, c'est, vous savez, c'est une qualité, la bonté. Mais comme vous dites, après, malheureusement, si on tombe avec des personnes qui, elles, ne comprennent que les rapports de force. Oui, il faut pouvoir aussi montrer les dents, aussi, ou sortir les griffes, comme les petits chats. Mais bon, ça s'apprend. Et puis, maintenant, je reçois encore un message pour vous d'Isabelle qui dit, c'est vrai qu'il est formidable, Paul, et très intéressant. Nous sommes tous avec vous, Paul, et mangez pour nous et pour votre petit chat.
Remangerai quand même.
Si elle pouvait vous le dire, faites à ce moment-là, achetez-vous des petits trucs. Quand on n'a pas d'appétit, qui vraiment vous font plaisir. Quitte à aller, voyez, en journée, déjà, ça vous fait mettre un peu le nez dehors. Il fait beau en ce moment à Nice.
Oui, on part à la passe pleine. Mais quelquefois, je vais marcher pour faire quelques courses.
Voilà, faire quelques courses.
Mon frigo est plein, mais...
Votre frigo est plein, mais il faut acheter vraiment des choses que vous aimez.
C'est périmé, oui.
Et puis peut-être voir du côté de la mairie. Denis, je suis sûre.
Je vais téléphoner, justement.
Je suis sûre qu'il propose. Il y a des tas de. Il y a certainement des activités, des clubs, des anciens.
Ah, c'est fermé, avec le Covid,
oui, mais alors appelez la mairie en disant vous avez essayé. Bon, les petits frères des pauvres actuellement, ils manquent peut-être du fait aussi de la situation de bénévoles qui se déplacent, malheureusement. Ouais. Mais si vous appelez la mairie de Nice en disant je suis trop seule là, je sens que mon moral est en train de flancher, mon frigo est plein, mais j'ai plus envie de me nourrir. Je suis sûre qu'ils vont vous dépêcher quelqu'un. À la mairie de Nice, je suis sûre qu'il doit y avoir, il y a forcément des gens, et parce que ça se fait dans beaucoup de mairies, où il y a un peu des vigies comme ça, et pour les personnes qui sont très seules, dont le moral flanche, et vous n'êtes pas le seul, Paul, vraiment, les mairies sont attentives à ça, et pourraient dire, on va vous envoyer quelqu'un. Parce qu'en fait, Paul, je pense qu'il faudrait peu de choses. Si vous aviez simplement, vous voyez, quelqu'un qui passe une petite visite, pouvoir parler, comme vous l'avez fait avec moi ce soir, je suis sûre que vous retrouveriez un peu d'appétit et un peu le moral.
Et surtout, aucun coup de téléphone.
Mais c'est
moi qui téléphone à la dame qui est aveugle. Et si Anne-Marie, si m'a envoyé quelqu'un, mais elle me donnait rendez-vous à l'église. Elle était aussi très...
Pourquoi ils veulent tous vous envoyer à l'église? Ils sont énervants.
Elle était croyante, alors que ma mère, elle était bien trop.
Enfin, en même temps, je dis ça, il y a des... vous pouvez dire, écoutez, moi, je serais enchantée que quelqu'un vienne me voir, mais pas rendez-vous à l'église.
Ah oui.
Elle peut venir chez vous. Enfin, vous voyez, c'est la mairie. Vous dites, si vous appelez la mairie, dire moi, oui, j'avais eu quelqu'un, mais qui me proposait un rendez-vous à l'église. Bon, j'ai pas envie d'aller à l'église. Voilà.
Mais Caroline, certaines femmes que j'allais voir, elles préféraient que ce soit un homme, enfin, une femme qui les visite plutôt. Ça la dérangeait que ce soit un bonhomme.
Ah, ben ça, ça c'est vrai, ça peut exister. C'est comme les médecins, il y en a qui préfèrent un homme, d'autres une femme. Mais je suis sûre qu'à la mairie, on va trouver, ils vont rappeler-les. Il faudrait que vous trouviez un médecin qui s'occupe bien de vous aussi. D'accord, Paul? Et puis peut-être qu'on aura des numéros de téléphone pour vous. Je fais une petite annonce. Si vous habitez Nice ou les environs, que vous avez été ému par le témoignage de Paul, franchement, passez-nous un petit coup de fil. 09 69 39 10 11. On serait vraiment heureux de pouvoir vous mettre en relation avec Paul. Ouais. Je vous embrasse bien fort, Paul. Vous mangez un peu, d'accord?
Je remangerai.
Vous mangez un petit peu. Vous faites une douce caresse à votre petite Lilou. Et puis, quand vous avez un petit coup de mou, un petit coup de baisse de morale, on est là et n'hésitez pas à nous appeler.
Oui, par contre, je me suis remis à fumer. Avant, j'avais arrêté de fumer depuis 30 ans.
Oui.
Bon, je ne bois plus depuis très longtemps.
Remis à fumer, c'est ça?
Ah oui,
écoutez. C'est mon truc. Que je vous dise. Bon, on a tous un peu nos petits vices.
Oui.
c'est pas très grave, ça. Mais il faut que vous remangiez un peu avec. Je vous embrasse très fort, Paul.
Oui, merci beaucoup.
Vraiment, Caroline. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, Paul.
Je tiens à vivre quand même quelques
années. Mais j'entends. J'entends qu'il faudrait peu pour que vous retrouviez ce goût-là. Et puis pour prendre soin de la petite, Lilou. Je vous embrasse.
C'est l'essentiel, merci.
À bientôt.
Merci beaucoup.